L'apôtre Jacques. L'assemblée, l'Église, avait commencé à Jérusalem. Elle se composait d'abord uniquement de Juifs convertis au Seigneur Jésus. Ces croyants d'entre les Juifs étaient restés attachés au temple et aux cérémonies de la loi. Acte 21, verset 20.
Et eux, l'ayant ouï, glorifièrent Dieu et dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. »
Ils n'avaient pas compris que Christ étant venu, cet ancien ordre des choses devait disparaître, comme n'étant que l'ombre de tout ce que Christ a porté. Hébreux 10, verset 1.
Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement, chaque année, rendre parfait ce qui s'approche.
La destruction de Jérusalem et du Temple vint briser ces liens qui les retenaient encore attachés au judaïsme. Mais auparavant, dans sa tendre bonté, le Seigneur leur avait adressé, très probablement par le moyen de l'apôtre Paul, une lettre, l'Épître aux Hébreux, où il leur montrait Christ dans le ciel, le Fils de Dieu, remplaçant d'une manière infiniment excellente tout ce que la loi donnait. Nous apprenons dans cette belle épître qu'il est la victime parfaite, offerte une fois pour toutes, pour ôter nos péchés. Il est le grand souverain sacrificateur, paraissant pour nous dans le ciel devant Dieu et intercédant pour nous. Il nous ouvre, par son sang, l'accès du sanctuaire céleste où il est entré comme notre précurseur. Le ciel est ainsi la patrie vers laquelle nous marchons, les yeux fixés vers Jésus, le grand capitaine de notre salut, qui a vaincu nos ennemis et nous a montré le chemin. Tout cela ne vaut-il pas mieux qu'un temple, un culte et des cérémonies terrestres? Tandis que tout ce qui est terrestre passe et prend fin, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Aussi l'auteur termine-t-il en exhortant les croyants hébreux et nous aussi à sortir vers lui hors du camp portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, versets 8, 13 et 14. Les croyants hébreux ayant ainsi reçu ces divines assurances et ces précieuses consolations pouvaient abandonner sans regret ce qui n'était que passager et allait être détruit, et saisir un royaume qui ne peut être ébranlé. Ils avaient une espérance céleste de biens éternels. Aussi, après la destruction de Jérusalem, les assemblées composées de chrétiens juifs perdirent leur caractère mélangé, et il n'y eut plus extérieurement ni juifs ni grecs. Mais si, par la grâce de Dieu, les chrétiens avaient trouvé une abondante consolation dans la certitude des bénédictions célestes, les malheureux juifs n'en avaient aucune. Ils ne pouvaient renoncer à une ville et à une terre qui leur étaient si chères. Attendant toujours un Messie libérateur et conquérant, ils se rallièrent encore une fois et tentèrent de rebâtir Jérusalem. Pour les empêcher de reconstituer leur nationalité, l'empereur Hadrien voulut élever dans cette ville un temple à Jupiter. Alors éclata une terrible insurrection des Juifs sous la conduite du faux prophète Bar Cochébas, qui prétendait être l'étoile annoncée par Balaam. Nombre 24, verset 17.
Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte.
La révolte fut étouffée dans le sang, près de 600 000 Juifs périrent. Hadrien établit à Jérusalem une colonie romaine et donna à la ville le nom d'Aquilla Capitolina. Il fut défendu aux Juifs, sous peine de mort, d'y entrer, et même de la contempler de loin. Ce fut la fin de la nation juive dans sa terre pour de longs siècles. Il subsiste toujours un peuple à part, la plupart encore dispersés. Plus tard, un empereur romain nommé Julien l'Apostat, parce qu'il avait été chrétien, au moins de nom, et qu'il avait renoncé au christianisme pour embrasser le paganisme, plein de haine contre Christ et les chrétiens, voulut faire mentir les prophéties et les paroles de Dieu en rétablissant Jérusalem et le temple. Il adressa un appel aux Juifs, les invitant à venir concourir à cette œuvre, Dieu arrêta cette entreprise impie. Rien ne peut annuler la parole de Dieu. Avant de continuer l'histoire de l'assemblée, nous dirons quelques mots sur les apôtres Jacques et Jean. Nous avons déjà parlé de Pierre et de Paul, et ce que nous savons des autres apôtres, en dehors de ce que dit l'Écriture, est trop incertain pour être mentionné. L'apôtre Jacques, dont nous parlons ici, n'est pas le frère de Jean. Celui-ci avait été mis à mort par le roi Hérode, acte 12. Mais l'autre Jacques, fils d'Alphée, était aussi au nombre des apôtres choisis par le Seigneur. Nous le trouvons mentionné au chapitre 15 et 21 des Actes et dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Dans ces différents endroits, nous le voyons occuper une place éminente dans l'assemblée de Jérusalem. Avec Pierre et Jean, il était considéré comme une colonne, c'est-à-dire le soutien de l'assemblée. Galates 2, verset 9.
Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association.
Comme les autres, ils étaient restés attachés aux cérémonies de la loi judaïque, mais ils avaient un cœur large et, dirigé par l'Esprit-Saint, c'est lui qui le premier donna l'avis de ne pas obliger les chrétiens d'entre les nations à observer la loi. C'était un homme humble. Nous le voyons dans la salutation qui est au commencement de l'épître qu'il écrivit aux 12 tribus d'Israël dans la dispersion. Bien qu'il fût le frère du Seigneur selon la chair, Galates 1, verset 19, et apôtre, il prend seulement le titre d'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Galates 1, verset 19, « Et je ne vis aucun des apôtres sinon Jacques, le frère du Seigneur. »
Jacques 1, verset 1 et 4, verset 6, « En même temps, il était d'une piété très grande et marchait dans la sainteté et la justice devant Dieu, de sorte qu'on l'avait surnommé le Juste. » On voit dans son épître comment il exhorte les chrétiens à montrer la réalité de leur foi par leurs œuvres, en étant patients dans la souffrance, en ne faisant pas exception de personne, en veillant sur leurs paroles, en ayant une vraie sagesse, pure, paisible, pleine de miséricorde et de bons fruits, en fuyant les convoitises du monde, et en vivant dans la dépendance de Dieu et dans la prière persévérante, en attendant la venue du Seigneur. Ce qu'il disait, il le pratiquait. Aussi tous, chrétiens et juifs, avaient pour lui un profond respect, et bien des âmes étaient gagnées à Christ par ses exhortations appuyées par la sainteté de sa vie. Cela excita au plus haut point la jalousie et la haine des scribes et des pharisiens, comme s'avait été le cas pour son maître, le Seigneur Jésus. Voyant qu'un si grand nombre de personnes étaient amenées par lui à reconnaître Jésus comme Seigneur et Christ, ils résolurent de le faire périr. Voici ce que la tradition raconte à ce sujet. Pour accomplir leur dessein, ils vinrent le trouver et lui dirent « Nous te prions d'arrêter le peuple, car tous vont après Jésus comme s'il était le Christ. Parle-lui, afin qu'il ne s'égare pas. Dis à tous ceux qui viennent à la fête de Pâques ce qui concerne Jésus. » Jacques consentit à leur désir, et ils le conduisirent sur le fait du temple, afin que tous puissent l'entendre. Alors ils lui dirent, « Ô juste, aux paroles duquel nous devons prêter l'oreille, dis-nous quelle est la doctrine de Jésus. » Il répondit, « Pourquoi me demandez-vous ce qui concerne le Fils de l'homme? Il est assis dans le ciel et à la droite de la puissance et doit en revenir sur les nuées. » Plusieurs dans la foule furent convaincus et glorifièrent Dieu en disant, « Hosanna au Fils de David. » Mais les ennemis de Jacques, remplis de fureur, précipitèrent le serviteur de Dieu du haut du temple, et comme il vivait encore, ils le lapidèrent, tandis que, suivant l'exemple de son divers maître, il priait pour eux. C'était vers l'an 66. L'historien Joseph regarde la destruction de Jérusalem comme un châtiment infligé aux Juifs à cause du meurtre de celui que même parmi eux on appelait le Juste.